Bonjour, quand j'ai entendu cette petite musique samedi, j'ai compris qu'il s'était encore passé quelque chose à France Inter et j'ai appris que c'était le décès de Jean Garetto. Donc après Jean Garetto, Pierre Caudou et Chris, et des gens auxquels on était attachés, qui nous quittent, voilà, c'est la vie, mais que de moments super dans les années 70, 80, avec l'oreille en coin. Samedi après-midi, dimanche matin, voilà, la belle radio, la radio intelligente, qui fait confiance aux gens, à leur intelligence. Eh ben, merci à tous, c'était Joël de Maurepas.
Bonjour Daniel, j'étais content aujourd'hui d'entendre ta voix à l'émission, sachant qu'on t'attendait hier à la fête de l'UMA sur le stand des Amis de l'Humanité pour le débat après la projection de la bande-annonce au Warzine. Donc tu étais tout excusé car malade, donc ça fait plaisir de savoir que t'es bien rétabli. On a regretté aussi l'absence d'Olivier Hazan, on n'a pas su pourquoi d'ailleurs, c'est un peu dommage. Mais pour dire que la projection de la bande-annonce a bien été perçue, il y avait beaucoup de monde sous le chapiteau, une bonne ambiance, et le débat a bien eu lieu hein, sur les États-Unis avec la présence du dernier invité qui lui était là, qui est Christophe de Roubaix, autour de son livre « Dictionnaire presque optimiste des États-Unis ». Donc ça a été un très bon débat et qui devrait donner un bon avant-goût aussi quand le film sortira définitivement. Voilà, ciao, viva.
Oui, bonjour Daniel, c'est Bruno de Bretagne. Excellente émission sur Henry Ford aux USA. Mais il n'y a pas que Henry Ford qui ait fait du business avec les nazis. Dans l'excellent livre de Edwin Black l'explique très bien également, notamment pour les machines Olerit qui ont permis de cataloguer et de ficher donc les juifs d'Europe, les entreprises Siemens, Krupp, Bayer, Hugo Boss, designer des uniformes nazis, et Allianz Assurance également ont contribué. Mais en tout cas, c'est une très très bonne émission, Daniel, et je te remercie pour la qualité de tes programmes. À bientôt.
Super l'émission sur Ford, mais je voudrais apporter quelques petites précisions sur la personnalité de ce mec-là, l'inventeur et le propagateur de l'antisémitisme américain. Hitler l'admirait et avait dans son bureau une photo de Ford. Et Ford, lui, avait de grandes sympathies pour le nazisme. En juin 1940, il sabrait le champagne à l'hôtel Waldorf Astoria de New York avec l'ambassadeur de l'Allemagne nazie pour fêter la défaite de la France. 75 000 pauvres types ont laissé leur peau face au Panzer. Vaincus non par manque de courage, mais à cause de l'impéritie des badernes de l'état-major. C'est pour tout cela que jamais je ne conduirai une voiture portant sur la calandre le logo de Ford. Bravo Mermet, continue.
Bonjour à tous, bonjour aux Montalbanais. Nous attaquons la troisième année du Café Repère de Montauban ce mardi 18 septembre 2012. Nous restons dans nos habitudes, donc même lieu, le Lézard Pub. C'est rue Gillac, entre la place nationale et le théâtre. Un café fort sympathique où Antonio, le patron, nous invite une année de plus à se retrouver dans son bar. Pour l'heure, c'est de 20h30 jusqu'à ce que les idées s'épuisent. Et les thèmes, eh bien, nous les déciderons tous ensemble, aujourd'hui et tout le long de l'année. Ce soir, c'est retrouvailles et anecdotes autour d'un bon verre. Alors, Montalbanais et Montalbanaises et chers voisins, à ce soir au Lézard Pub à partir de 20h30. Soyons nombreux, salut.
Oui, bonjour. Dans 600 milliards qui manquent à la France, enquête au cœur de l'évasion fiscale, page 134, Antoine Payon écrit que la direction générale d'UBS France a traîné en justice la secrétaire du CHSCT au tribunal de police de Paris pour diffamation non publique parce qu'elle avait écrit qu'il y avait de la fraude fiscale, d'instruction de destruction de preuves, de destruction de preuves, d'harcèlement de collaborateurs récalcitrants à pratiquer du démarchage en vue d'évasion fiscale et d'obstruction de la justice. Mais elle a perdu, le tribunal de police a débouté la direction d'UBS par jugement au fond le 27 septembre 2010 et a déclaré la secrétaire du CHSCT non coupable de l'ensemble des faits qui lui ont été reprochés. Ce qui veut dire en clair qu'il reconnaissait au fond que la banque UBS avait donc pratiqué de l'évasion fiscale en France depuis donc avant 2010, Alors, est-ce que vous avez entendu parler le gouvernement précédent ou le gouvernement actuel dire qu'il allait s'attaquer à cette fraude fiscale, à cette évasion fiscale vers la Suisse, qui coûte au moins 600 milliards d'euros à la France? Je pense qu'en période de vache maigre, ça serait peut-être pas mal. Voilà, bon courage à tous. Et puis, si vous avez vraiment trop d'argent, eh bien, contactez Antoine Payon pour savoir comment faire. Kenavo.
Merci pour tous ces messages et surtout ce dernier message, ça tombe très bien parce que c'est notre sujet du jour, l'évasion fiscale, les paradis fiscaux dont profitent les nantis que vous connaissez et des entreprises du CAC 40 par exemple en France. Tout ça prive la France d'environ 60 milliards d'euros de recettes. Nous le savons, vous le savez, et personne n'a l'air plus ému que ça. En tous les cas, rien n'indique qu'une action quelconque serait entreprise pour essayer de faire rentrer un peu ces sous dans les caisses de l'État. C'est une indignation et un étonnement qui n'est pas récent. En tous les cas, il avait été relayé par Antoine Payon dans son livre « 600 milliards qui manquent à la France » publié au Seuil. On revient donc sur ce thème-là. Merci aussi pour vos messages concernant Henry Ford. Henry Ford et ses liens avec le nazisme et son antisémitisme militant, on peut dire, mais aussi évidemment le fordisme. Et bien là où nous sommes, ça ressemble tout à fait à une usine. Oui, oui, à une usine, des gens alignés qui font tous la même chose à peu près en même temps. Ben, c'est Las Vegas. Las Vegas, des gens alignés devant des machines à sous. Voilà où nous sommes. Nous ne sommes pas à Venise, nous ne sommes pas au temps des pharaons, nous ne sommes pas à Hollywood, nous sommes, je parle du décor que vous connaissez, que tout le monde connaît très très bien de Las Vegas. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est d'essayer de voir les élections américaines, la société américaine aujourd'hui, à travers une ville comme Las Vegas, une des capitales du suicide aux États-Unis, un taux de chômage extrêmement élevé, des difficultés sociales et d'habitat de toutes sortes derrière cette façade matu vue de carton-pâte, encore une fois que vous connaissez très bien. Donc aujourd'hui, paradis fiscal, évasion fiscale, des 600 milliards qui manquent à la France. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous. Ce soir, prochain repère de la base si j'y suis, à 20h, au Baroque Café 4 du Pont à Pont-sur-Yonne. Ce soir, nous aborderons le thème « Bonnes et mauvaises nouvelles de la rentrée ». À ce soir.
De 2008 à 2011, des milliers d'éleveurs se sont mobilisés contre un diktat de l'État Sarko. La vaccination obligatoire du bétail contre une maladie bénigne même pas contagieuse, avec des vaccins expérimentaux et, tant qu'à faire, payés par le contribuable. Merci le lobby des labos. On nous menaçait d'abattre nos troupeaux si on ne vaccinait pas. On n'a pas vacciné. Groupés en collectif, on est allé devant les tribunaux. Et là, après 3 ans de lutte, on a eu gain de cause. Le sage dit, si la pierre tombe sur l'œuf, malheur à l'œuf. Si l'œuf tombe sur la pierre, malheur à l'œuf. Moi je dis, avec une douzaine d'œufs durs, c'est à voir. C'était Christine du Limousin.
Oui, bonjour. Marie-Paul Gaudin, Pascal Musset et Jean-Marc Bonavoir sont heureux de vous faire part de la naissance d'un nouveau café repère à Pénétin dans le Morbihan. La première aura lieu le 20 septembre à 20h au café librairie Le Bateau Livre au Haut-Pénétin, 56-760 Pénétin. Le thème choisi pour cette première tournera autour de la question « Peut-on imaginer une société sans croissance ?» Voilà, venez nombreux faire en sorte que ce coup d'essai soit un coup de mer-maître. À bientôt.
Bonjour à toutes et à tous. Le deuxième repère de la base si j'y suis, Ducel en Corrèze, aura lieu le mercredi 19 septembre. Rendez-vous à partir de 18h au bar Le Troubadour, place de la République, premier étage. Et nous discuterons de la gauche au pouvoir, les promesses et les attentes des citoyens et les actions possibles pour influer sur la politique. Voilà, et bien à très bientôt.
C'est un facteur très important de ce qui est relevé par tous les économistes maintenant depuis quelques années, mais surtout ces toutes dernières années, qui est la croissance des inégalités. D'un côté, une croissance extraordinaire de l'hyper-richesse, parce que l'évasion fiscale est un outil d'augmentation de la richesse.
L'évasion fiscale, c'est le fonds de commerce de la Banque Suisse. Ils vivent de ça depuis des siècles. Ils vivent de nos impôts. Il faut que la Suisse arrêtent de nous voler. Il faut leur rentrer dedans.
Prenons un exemple, l'Espagne, la Grèce, l'Italie seraient dans une des situations bien moins graves qu'ils connaissent en ce moment s'ils avaient plutôt lutté contre l'évasion fiscale au sein de leur propre pays, c'est une évidence.
L'évasion fiscale, toute confondue, est certainement un manque à gagner de 30 à 40 milliards d'euros chaque année.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis. De l'argent, il y en a, carnet de lait et fichier vache.
Flight number 2, arriving from New York.
Bien évidemment, les paradis fiscaux se portent très bien. Chaque année, à cause des paradis fiscaux, l'État perd 30 milliards d'euros, deux fois le déficit de la sécurité sociale, les paradis fiscaux se portent bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus précisément à l'évasion fiscale. Pour qu'il y ait évasion fiscale, il faut qu'il y ait paradis fiscaux. Et l'un des plus vieux paradis fiscaux, eh bien, c'est notre voisin, la Suisse, notre voisine, la Suisse, qui se porte très bien, qui continue d'être le coffre-fort du monde, de l'Europe en tout cas, et qui prospère et qui ne peut pas vivre autrement que par cette activité essentielle qui est l'activité bancaire, légale ou non. Non, pour ce qui concerne l'enquête d'Antoine Payon, ces 600 milliards qui manquent à la France, où il révèle, il y a des révélations dans ce bouquin, même si l'évasion fiscale a fait l'objet auparavant, déjà depuis plusieurs années, d'études et de dénonciations diverses et variées, notamment autour de la banque UBS qui s'est implantée en France en 1999 ou 2000, je crois, à cette fin, à la fin de draguer des fortunes françaises, fortunes, soit des fortunes de particuliers, soit aussi des biens, des avoirs de grandes entreprises ou de grandes multinationales, afin de faire de l'optimisation fiscale. Ouvrez un compte chez nous, vous serez bien traité, etc. Et puis là, il y a un deuxième temps où l'optimisation fiscale, c'est finalement de ne pas payer d'impôts du tout. Pas seulement, parce que une fois que ces avoirs sont dans cette banque, eh bien, l'argent ne dort pas, l'argent travaille à hauteur de 6, 7, 8%, c'est donc très très juteux. Donc voilà des sommes considérables, dont Antoine Payon va nous parler, qui sont soustraites, eh bien, au trésor français, au fisc français, soit directement par le fait que ces fonds, ces avoirs échappent complètement, mais aussi sur les intérêts qui sont versés sur ces comptes, à ces évadés fiscaux, et puis aussi qui échappent à l'impôt sur la fortune, et puis également c'est de l'argent qui pendant ce temps-là est moins investi, voire pas investi dans l'économie réelle. C'est donc un manque à gagner considérable à une époque comme celle que nous vivons, celle de l'époque de la crise, l'époque de la dette, face à laquelle nous devons tous faire face en se serrant la ceinture et en acceptant la rigueur parce que nous avons trop dépensé. On voit tous les dégâts sociaux entraînés par cette crise alors que de l'argent il y en a. Encore une fois, je ne vous révèle rien, je ne vous apprends rien. Tout cela, on le sait depuis fort longtemps. On a fait des émissions sur les paradis fiscaux il y a bien longtemps, et les paradis fiscaux sont toujours là. Toujours là, sauf que malgré tout, aux États-Unis, on voit que le gouvernement américain prend un certain nombre de mesures, et contre les banques qui se sont spécialisées, elles sont très nombreuses dans l'évasion fiscale, et contre les évadés fiscaux eux-mêmes, c'est-à-dire ces fraudeurs, si bien que ça va être de plus en plus difficile pour les autorités européennes et les autorités françaises de bloquer, de faire croire qu'on fait quelque chose, et surtout de ne rien faire, car il y a, selon Antoine Peillon, une indéniable connivence entre les fraudeurs et le pouvoir. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas, si j'y suis, de l'argent. Il y en a, carnet de lait, fichier de vache.
J'ai des hassenettes pour le paradis fiscal. Piscine hibiscus, excusez mon mode de vie scandale. Mon angora s'appelle Britannicus. Là-haut sur la côte, ma vue, les vagues, les aigles me draguent, les journalistes me soufflent à l'oreille de jolies phrases. Mon cuisinier, mon palefrenier ne voit décoller pour les îles Vierges aucun mandat, aucune charge. Transite par disque dur, je palpe chaque jour en taux d'intérêt. De quoi refaire la toiture du musée d'Orsay. J'ai un bateau taille réelle dans le salon de ma baraque au bord du lac Léman. Je suis le Mozart de l'usure. Ma caillasse attire la thune sûre. Contre les ponctions, j'ai X plan B. De nos jours, on aide ceux qui veulent flamber. La chute des riches, est-ce dans les fables? Les notaires savent qui est solvable. Je suis rentier. Mes comptables taffent, on me masse les pieds. Je suis rentier. C'est mon argent que l'on fait travailler. Je suis rentier. J'avais un poil au torse, on me l'a épilé. Je suis rentier.
Antoine Peillon, on va commencer par le titre de ce bouquin, 600 milliards qui manquent à la France. Qu'est-ce que c'est que ces 600 milliards? Comment vous en êtes arrivé à ce chiffre et qu'est-ce qu'il veut dire?
600 milliards, c'est l'ensemble des sommes qui, au fil d'à peu près d'une génération, ont été accumulées par les fortunes privées ou les fortunes des entreprises et des groupes sur des comptes bancaires non déclarés. Comptes bancaires non déclarés qui ne peuvent exister que dans les paradis fiscaux. Et parmi tous les paradis fiscaux, pour un tiers de l'ensemble de ces sommes, la Suisse. Qu'est-ce que ça veut dire non déclaré? C'est extrêmement simple. Non déclaré, ça veut dire que ce sont des sommes issues de revenus qui n'ont pas été déclarées au fisc. Le fisc, quand on déclare ses revenus, prend une part qui s'appelle l'impôt. Quand vous ne déclarez pas vos revenus et que vous les placez sur des comptes bancaires secrets, en quelque sorte, eh bien, vous le faites totalement échapper au fisc.
Donc, déjà, d'ores et déjà, c'est un manque à gagner, c'est un manque à rentrer dans les caisses de l'État.
C'est un premier manque à gagner dans les caisses de l'État, qui est celui du manque à gagner sur l'impôt sur le revenu, qu'il soit le revenu personnel ou l'impôt sur les sociétés. Il y a un deuxième manque à gagner, c'est que quand vous constituez un capital, celui-ci produit aussi des revenus. Et en l'occurrence, ces capitaux qui ont été cachés dans les paradis fiscaux produisent des revenus à haut niveau de rendement. Vous placez votre argent sur un compte non déclaré en Suisse, il va vous rapporter au bas mot 7,5% de croissance par an. Là aussi, ce revenu non déclaré n'est pas fiscalisé. Donc, deuxième détente de pertes pour le fisc. Le troisième niveau, c'est que les capitaux, quand ils dépassent un certain montant, notamment en France, mais c'est valable dans beaucoup d'autres pays, sont imposés au titre de la fortune. Et donc, il y a un troisième impôt qui n'est pas perçu sur l'ensemble de cet argent qui a été placé sur les comptes non déclarés, qui est l'impôt sur la fortune.
Alors, ça représente quoi, ça ? C'est ce détournement ou ce manque à gagner pour le fisc français ? On a une idée annuelle ?
Oui. Pour ce qui concerne strictement les fortunes personnelles, qui est la petite moitié de ces 600 milliards d'euros, on considère que c'est un manque à gagner de 20 milliards d'euros chaque année.
20 milliards pour la moitié, c'est-à-dire sur les fortunes personnelles, du showbiz, du foot, voilà, de toutes ces personnalités-là, et d'autres que cela.
Bien sûr, que ce soit des très très hauts salaires, mais très très souvent, plutôt des honoraires, des droits d'auteur, toutes choses qui peuvent se faire payer à l'étranger très facilement sur simples factures, et des factures qui sont émises d'ailleurs par des hommes de paille ou des sociétés écrans. Et donc ça, c'est 20 milliards d'euros pour uniquement cette petite moitié de l'argent évadé chaque année de France. Pour l'autre moitié, le calcul sera différent parce que l'impôt sur les sociétés est sur des régimes en taux et en assiette différents de ce qu'il est pour l'argent des personnes physiques. Mais en gros, on peut estimer que l'évasion fiscale, toute confondue, est certainement un manque à gagner de 30 à 40 milliards d'euros chaque année.
30 à 40 milliards chaque année, selon Antoine Payon, c'est évidemment une somme considérable, considérable en des périodes comme celle que nous vivons. Toute la question actuellement, c'est la dette. Nos préoccupations tournent autour de la question de la dette. Il y a là probablement un moyen de la réduire.
Ce qui permettrait de réduire la dette, c'est de faire ce qu'on pourrait appeler rapatrier les fameux 600 milliards et de ponctionner sur ce rapatriement la moitié de ce montant. Alors, la plupart des services de renseignement, d'une part, mais de police judiciaire, de police fiscale, ça existe un petit peu, de la douane, enfin de tous les gens qui sont habilités à contrôler les situations fiscales et économiques, sont parfaitement au courant des montants et des méthodes d'évasion fiscale. Ceux qui se livrent à l'évasion fiscale font profiter de la richesse produite par cette évasion fiscale ceux qui ferment les yeux ou font fermer les yeux à leur administration sur cette évasion fiscale.
Alors, dans votre livre, vous racontez plusieurs exemples, mais l'exemple le plus flagrant, c'est le cas Bettencourt.
Le cas Bettencourt, il y en a d'autres, mais le cas Bettencourt, il a l'avantage d'être symbolique, spectaculaire, symbolique, parfaitement représentatif du système. Moi, ce que j'en ai vu, c'est un mouvement de fonds à hauteur d'environ 20 millions d'euros qui se situe sur un an et demi et qui est un mouvement de blanchiment d'argent, blanchiment d'évasion fiscale et de retour vers une banque française, la BNP, à partir de laquelle on sait aujourd'hui que des enveloppes de liquide étaient retirées au nom de Mme Bettencourt pour être ensuite distribuées à des personnes politiques. Le nom de M. Woerth est bien connu et M. Woerth travaillait pour une certaine campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007 pour la campagne présidentielle.
Ma banque est mon amie, elle s'occupe de moi. Ma banque est ma maman et je lui dois ma vie.
Ma banque est mon ferment, ma terre est mon sang. Ma banque est le cordon qui guide et me nourrit. Gloire à ma banque, gloire à ma banque, gloire à toi.
Alors, on continue avec Antoine Payon autour de son bouquin « Ces 600 milliards qui manquent à la France ». Une enquête qui porte autour, je le disais aussi à l'intérieur, d'UBS, la banque suisse, Jean Ziegler, vous vous souvenez, appelait « United Bandits of Switzerland ».
Du côté d'UBS, la conception d'une évasion fiscale industrialisée, parce qu'elle existait auparavant, mais pas au même niveau, est le fait de la direction générale du groupe UBS, qui, à partir du tournant des années 2000, considère que, vu la difficulté économique dans laquelle se trouve l'ensemble du monde développé et le monde financier, il va falloir passer à un rendement supérieur des activités illicites, parce que ce sont celles qui sont les plus rentables le plus rapidement possible. Et donc, ils mettent en place en France, mais pas seulement en France, c'est valable aussi en Espagne, des succursales dont l'objectif réel, principal, est de récolter l'argent de l'évasion fiscale. C'est une mise en place, comme aux États-Unis, dans toute l'Europe, d'un système systématique d'évasion fiscale.
Qui a révélé le système en France ?
La source première, la révélation première, ce sont des salariés de la banque, des commerciaux qui ont été les témoins les plus directs du phénomène et qui ne l'ont pas accepté, et ensuite principalement tous les auditeurs internes qui ont travaillé sur le démasquage des pratiques illicites.
Auditeurs, il faut dire ceux qui pratiquent des audits, hein, je dis ça voilà, à nos auditeurs. Qui... Voilà.
Auditeurs internes, les audits oui, internes.
Oui. Alors les auditeurs internes, certains auditeurs internes constatent, prennent conscience de ce système et en font part à leur hiérarchie.
Ils en font absolument part à leur hiérarchie, c'est même
c'est leur boulot.
C'est leur devoir, c'est leur boulot.
Bah, qu'est-ce qui se passe quand la direction est informée, est en présence de ces rapports, qu'est-ce qui se passe ?
Dans un tout premier temps, elle tente de faire comprendre aux auditeurs internes qu'ils vont réformer le système, que ce n'est pas la direction générale qui est à l'origine en fait du système, et que donc on va mettre bon ordre à tout ça. Mais qu'en échange de cet engagement de mettre bon ordre à ces mauvaises affaires, on demande le silence des auditeurs internes. Dans un deuxième temps, quand on s'aperçoit que ça ne marche pas, parce qu'évidemment, on n'arrête rien du tout, on commence à se montrer menaçant, on essaye d'acheter, on utilise toutes les méthodes traditionnelles pour acheter ou imposer le silence. Et finalement, dans un troisième temps, quand ces méthodes ne fonctionnent toujours pas, eh bien, on liquide, on met dehors, on licencie, voire on traîne au tribunal pour de mauvais motifs les auditeurs internes qui n'ont pas renoncé à dénoncer les malversations et les délits.
Alors, en vous lisant, on est un peu stupéfait par la stratégie d'UBS France pour approcher les personnes fortunées ou les entreprises de façon à, voilà, à faire de l'évasion fiscale. Alors les stratégies sont assez extraordinaires. On met en place tout un système de relations, d'amitié, de flatteries, d'événements concrets ou auxquels on invite les personnes dont on convoite la confiance. Ça peut être finale de golf ou des concerts ou la loge UBS à Roland-Garros. Et là, une fois que ces personnes sont là, en confiance, en lien véritablement d'amitié avec des personnes spécialisées dans ces relations publiques, arrivent les commerciaux, soit français, soit venant de Suisse, qui vont peu à peu faire comprendre à ces riches clients, d'abord peut-être leur proposer d'ouvrir des comptes tout à fait classiques, normaux, d'optimisation fiscale évidemment, puis ensuite on va passer à l'étape supérieure d'évasion fiscale véritablement. Mais ce qui se passe, c'est les stratégies, parce qu'il faut que tout ça soit fait évidemment sans laisser aucune trace. Ces comptes-là ne figurent pas dans les systèmes informatiques et sont simplement mentionnés sur des petits cahiers qui sont des carnets de lait, c'est ça ?
Carnet du lait. Et fichiers vaches ensuite.
Les fichiers vaches qui reprennent les vieilles habitudes des paysans suisses.
Oui, des vachers suisses dans les montagnes qui tenaient sur des petits carnets leurs comptes, des litres de lait qu'ils récoltaient chaque jour en trayant leurs vaches, puisqu'ensuite ils vendaient ce lait, il fallait qu'ils se fassent payer par ceux qui le récoltaient, les commerçants qui venaient le chercher dans les montagnes. Et donc ils tenaient très précisément le compte du nombre de litres récoltés chaque jour. Et puis ils faisaient leur total, et puis à une période donnée, ils se faisaient payer sur la base de ces notations. Les commerciaux suisses, ça s'appelle des chargés d'affaires suisses qui venaient opérer en France, et des commerciaux français qui ont aussi participé au système d'évasion fiscale, tenaient leur comptabilité d'évasion fiscale sur ces petits carnets, puisque ça leur permettait d'échapper à la comptabilité officielle, qui, elle, était évidemment saisie sur ordinateur et ensuite centralisée dans des serveurs informatiques qui, ensuite, ne pouvaient pas être si facilement nettoyés. Alors que le petit carnet, ben, une fois qu'on l'a utilisé, une fois qu'on a fait ses comptes, eh bien, on peut détruire le petit carnet en question et aucune trace ne restera de la récolte illégale de certaines fortunes à destination de comptes non déclarés en Suisse.
Que l'on impose les très grandes richesses, ceux qui possèdent des châteaux, des palais, ceux dont la vie n'est faite d'allégresse, sans nul souci, ne travaillant jamais. Que l'on impose les archimillionnaires, mais que désormais on laisse à l'ouvrier intégralement l'argent de son salaire, pour qu'il n'y ait plus de misère à son foyer. Au lieu d'imposer le travailleur qui gagne le pain de ses enfants, imposez plutôt les noceurs qui gaspillent tant d'argent. Oh oui, la loi qu'il fallait faire, je vous le dis, messieurs du Parlement, c'est pas l'impôt sur les salaires, mais c'est l'impôt sur les peignons.
Ces 600 milliards qui manquent à la France, c'est le bouquin d'Antoine Peillon, édité au Seuil. Et si Antoine Peillon a pu faire son enquête, c'est qu'il le disait à l'instant, des salariés à l'intérieur même du système, à l'intérieur même de la banque implantée en France au tournant de 1999-2000, ont compris ce qui se passait dans leur établissement et ne l'ont pas supporté. N'ont pas supporté personnellement. Et c'est le cas de celui que nous rencontrons maintenant qui tient à parler. Sa voix a été déformée par l'équipe de la BACJ.
La découverte d'un tel système est souvent liée à une présence relativement forte auprès des collaborateurs qui travaillent avec vous et qui travaillent dans d'autres métiers. C'est justement parce que nous avions des fonctions transversales qui nous ont permis d'approcher d'autres métiers que le nôtre depuis la Suisse, que nous nous sommes rendus compte très rapidement qu'il y avait des différences très nettes en termes de chiffres, de comptabilité et de transparence de ces chiffres entre ce qui était réellement produit et ce qui était réellement officialisé et déclaré par le groupe en Suisse. À partir du moment où vous décelez des écarts, vous êtes obligé d'enquêter. Et là où ça se corse, c'est quand les dirigeants que vous avez en face de vous reconnaissent la factualité et l'existence de ces écarts, mais ne sont pas en mesure de vous les justifier. Là, il s'agit d'intervenir. Nos départements ont été payés pour intervenir, et nous sommes intervenus à de multiples reprises dans tous les coins de l'Europe. Mais fallait-il après que nos recommandations ou que nos révélations soient suivies des faits? Et le problème, c'est que nous sommes vite rendus compte que nos dirigeants, en nous faisant croire que les choses allaient être régularisées, continuaient et ne régularisaient rien, parce qu'il était vital pour le chiffre d'affaires de la banque que cette activité et ces activités perdurent. Donc, vous travaillez, vous vous investissez, vous faites, en respectant les lois et les règles, votre métier le plus correctement possible. Vous donnez beaucoup de temps et de sueur à votre employeur. Vous découvrez la réalité et vous êtes très rapidement marginalisé, voire exclu du système. puisque vous êtes dans le système, vous êtes contre le système, mais il n'y a pas de position intermédiaire.
Vous en parlez à vos collègues, vous n'êtes pas le seul à avoir découvert le truc.
Bien évidemment, nous étions... Alors, c'est ce qui a fait, et c'est ce qui est en train de mettre à mal le système UBS ou de toutes les autres établissements qui pratiquent cette activité, c'est que quand vous le montez en puissance et que vous avez tendance à l'industrialiser, de plus en plus de monde sont au courant et cela peut générer un grand nombre de conflits. Et il se trouve que quand vous commencez à en parler autour de vous et que les commerciaux, qu'ils soient suisses, français, italiens, espagnols, vous disent tous la même chose, j'ai oublié les Allemands mais je pourrais aussi parler des Belges, c'est que vous ne vous trompez pas. C'était clairement un modèle mondial institutionnalisé et organisé par les plus hauts dirigeants de ces groupes, clairement. Donc, vous vous retrouvez en face de vos patrons, de ceux qui vous payent. Et donc, comme ils ne peuvent et qu'ils ne veulent tempérer, c'est vous qui servez de disjoncteur et de fusible.
Licencié.
Licencié.
Dans quelles conditions? Vous avez eu des indemnités?
Je n'ai eu aucune indemnité.
Donc, vous êtes mis à la porte.
On est totalement mis à la porte. Totalement. En l'espace de très peu de temps et pour des motifs totalement inadéquats avec la réalité des faits.
Vous auriez pu vous écraser. Vous auriez pu vous écraser, ne rien dire et puis continuer votre carrière en collaborant. Et je mets bien ces mots entre guillemets.
Il n'y a pas de collaboration possible dans la mesure où la machine vous détruit.
Vous subissez des pressions ?
J'en ai subi, mais je n'en subis plus depuis que les enquêtes sont officiellement ouvertes et médiatisées.
Quel type de pression ?
Nous avons fait l'objet de beaucoup d'observations, d'écoutes. On est aussi, dans certains cas, quand des dossiers sensibles touchant à des circuits criminels ou pseudo-criminels menacent ou avertissements. Donc, cela peut aller très loin.
C'est pour ça qu'en provenant de qui ?
En venant des gens ou des dossiers que vous traitez et des gens que vous commencez à inquiéter. Parce que n'oubliez pas que derrière un compte, il y a un nom, que nous connaissons les noms. Et quand vous commencez à devenir gênant, on vous le fait sentir.
Pression aussi du côté de votre, du côté du BS ?
De très fortes pressions, il y a eu du côté du BS, oui.
Menaces ?
Pas menaces, mais ce sont des conseils, de fortes recommandations. Oui, de vivre recommandations à aller voir ailleurs si on y est.
Vous avez pu rebondir, vous êtes grillé dans la profession maintenant. Vous êtes quand même un éminent conseiller financier. Vous avez réussi à rebondir.
Je n'ai pas réussi à rebondir. J'ai effectivement été totalement grillé car la place financière européenne, suisse ou autre est très petite et que quand vous êtes licencié, tout se sait. Et notamment, les motifs de ces licenciements se connaissent. Les groupes eux-mêmes qui licencient ont tout intérêt à communiquer pour vous démolir et vous empêcher de rebondir. Parce qu'ils savent très bien que le nerf de la guerre est l'argent. Ce sont des groupes surpuissants, ayant de très nombreux cabinets d'avocats qui travaillent pour eux. Vous êtes seul avec vos petits moyens et c'est le pot de fer contre le pot de terre. Donc plus ils vous décrédibilisent, plus ils vous attaquent, plus ils font courir de multiples rumeurs sur vous, moins vous avez les moyens de trouver un emploi et donc moins d'argent pour pouvoir correctement vous défendre. Et il faut être très clair, nous ne pouvons plus travailler dans aucune grande banque internationale au regard des pressions et des propos qui ont été tenus sur nous.
Partez à la découverte de la Suisse et gagnez avec UBS un appartement de vacances pendant 2 ans. Procurez-vous la brochure 100 lieux exceptionnels à découvrir et la carte à composter. Disponible dans votre agence UBS.
Alors dans son bouquin, Antoine Payon, les 600 milliards qui manquent à la France, explique le processus concernant la banque UBS, comment cette banque s'est installée des filiales en France en 1999-2000. Voilà une femme que nous rencontrons, qui a voulu absolument rester anonyme. Elle est impliquée dans toute cette affaire et elle était chargée de missions pour organiser chaque année des centaines d'événements mondains, culturels, sportifs, qui réunissaient de façon festive les centaines de clients ou futurs clients français d'UBS.
Soutenir le business. Soutenir le business, ça veut dire aider les chargés d'affaires à développer leur portefeuille. C'est à la fois par des brochures, des publications, des relations presse, des événements, des partenariats, mise en place d'un certain nombre d'éléments qui sont dans une stratégie de développement business.
D'accord. Et vous êtes resté combien de temps dans l'entreprise ?
8 ans.
8 ans. Vous en êtes sorti maintenant ?
Absolument.
Et vous avez porté plainte contre la banque ?
Oui.
J'aimerais quand même comprendre un peu plus votre boulot. Organiser des événements, c'est-à-dire ?
C'est un métier de RP, un métier de relations publiques. C'est-à-dire que quand vous êtes en gestion privée, vous vendez du sur-mesure. Vous vendez à des familles relativement riches l'organisation de leur patrimoine. Donc vous travaillez sur plusieurs générations. Vous travaillez sur du long terme. Ça veut dire qu'il faut que vous obteniez la confiance de vos clients. Ça prend du temps. Donc pour l'obtenir, il faut que vous puissiez passer du temps avec ces gens-là et leur montrer que vous méritez leur confiance. C'est un milieu relativement fermé qui est un petit réseau quand même, quelque part. Pour les démarcher, l'idée est de passer du temps avec eux pendant des événements, notamment. Vous connaissez vos clients, vous connaissez leurs hobbies, vous connaissez leurs passions, vous connaissez les passions de leurs femmes, de leurs enfants, que ce soit l'équitation, le tennis, le golf, la musique classique, l'opéra. Vous allez faire plaisir à vos clients, puisque ce type de clientèle est tout de même énormément démarché. Donc il faut que vous vous démarquiez, donc trouver des idées nouvelles. Les plateformes événementielles ont été montées notamment pour ça.
C'est-à-dire qu'il s'agit d'organiser ou d'être présent avec vos clients potentiels dans une chasse à cours,
par exemple,
une vente de charité,
aussi,
une soirée à l'opéra.
Je vois que vous êtes bien renseigné.
Alors on m'a parlé de la finale de Roland-Garros, c'était l'endroit très prisé.
Oui, UBS, une loge à Roland-Garros, depuis plus de 10 ans maintenant. Oui, c'est un des événements importants. Il faut être présent à Roland-Garros.
Il faut être présent à Roland-Garros, c'est-à-dire que la banque a sa loge à Roland-Garros et y invite ses clients, ceux auxquels elle tient le plus. Tout ça, c'est absolument légal.
Absolument, on est complètement d'accord.
Voilà. Jusque-là, ça va.
Jusque-là, tout va bien.
Jusque-là, ça va.
Ce qui se passe, c'est que, en tout cas, jusqu'en 2008, les chargés d'affaires suisses étaient physiquement présents en France, dans nos bureaux et sur nos événements. Donc, comme disait un de nos anciens collègues, on mélangeait le bon vin et l'ivraie.
C'est ça.
Et donc, on a appris avec l'histoire Birkenfeld, l'histoire de ce chargé d'affaires américain qui est aujourd'hui en prison. On a appris tous, complètement médusés en 2008, que le démarchage des chargés d'affaires sur notre territoire français était illégal. En fait, c'est un chargé d'affaires qu'on ne connaît pas nous en France, mais qui démarchait des clients américains pour monter des sociétés offshore dans des paradis fiscaux. En fait, il s'est dénoncé aux autorités en expliquant ce qu'il faisait. Et on pense que derrière ça, il y a eu un gros conflit avec la banque au niveau d'un bonus.
L'UBS a peut-être des soucis à se faire. Un de ses anciens employés aux États-Unis a reconnu aujourd'hui avoir aidé des Américains à frauder le fisc. Il a plaidé coupable, mais il a surtout chargé sa direction. Il affirme que de telles pratiques étaient autorisées par l'UBS, voire même encouragées.
TSR, 19 juin 2008.
C'est dans ce tribunal de Floride que se joue peut-être l'avenir de l'UBS aux États-Unis. Bradley Birkenfeld, un ancien gérant de fortune de la banque suisse, y est jugé pour avoir aidé un milliardaire américain, Igor Olenikov, à soustraire 200 millions de dollars au fisc. Bradley Birkenfeld plaide coupable et a promis de collaborer avec la justice. Bradley Birkenfeld s'apprêterait à livrer au fisc les noms de milliers de clients américains pour obtenir la clémence de la justice.
À la lumière de cet événement, vous découvrez la vérité, vous êtes seul à découvrir ou vos collègues découvrent en même temps que vous? Vous vous dites, mais attends, c'est incroyable ce qu'on nous fait faire ou ce qui se passe dans notre dos ou...
Je pense que tout le monde est très conscient, mais on vit dans le monde du silence et le monde de la peur, le monde où personne ne parle. Soit vous avez une conscience, vous vous posez des questions, vous ne vous en posez pas. La banque, elle a fait un plan social d'une centaine de personnes.
considérant que cette centaine de personnes étaient trop bien informées,
ou peut-être un peu gênante.
Douée de conscience.
Et c'est clair qu'il y a un turnover qui est permanent et récurrent, certainement pour ne pas qu'il y ait ni de mémoire d'entreprise, ni de mémoire individuelle.
Vous en êtes où exactement aujourd'hui? Vous avez retrouvé un boulot, vous?
Non, je n'ai pas retrouvé de boulot. L'idée était déjà, un, de me reconstruire, parce qu'on ne sort pas d'une histoire comme ça indemne. Mm-hmm. Et on se rend compte, au milieu de cette campagne politique, que finalement, il y a des intérêts qui nous dépassent tous, qu'on est juste un maillon de la chaîne. Donc, c'est lourd, justement, par rapport à un devoir de citoyen, par rapport à une morale de... Voilà, il faut se recentrer, reconstruire. Mmh. J'ai pas du tout envie de retravailler dans une autre banque, j'ai pas du tout envie de retravailler dans le même système, j'ai besoin d'autre chose. Je sors de là un peu abîmé quand même, un peu meurtri, oui, pas aigri, il y a des gens qui sont relativement vindicatifs. Moi je me dis que c'est l'expérience d'une vie. Ça nous tombe dessus et qu'à un moment donné, il faut être capable de se lever contre et en tout cas de tirer un signal d'alarme. Enfin, c'est ce qu'on a fait. Derrière, il y a une question d'honneur parce qu'effectivement, on a été salis, on a été isolés, on nous a pris pour des fous. En revanche, tout le monde sait qu'on a raison.
Je vous prie de m'écouter. J'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Je ne suis qu'un pauvre petit banquier qui a une complainte, à déposer. Derrière mon costume noir et blanc, c'est plutôt noir que blanc. Je passe mon temps à encaisser les sourires gênés et les billets au fur et à mesure que mon bonheur se débite de plus en plus. De plus en plus ma déprime se crédite. Je brasse énormément d'argent qui n'est pas pour moi, évidemment. Ma vie n'est qu'un compte courant. Je le cours après tout le temps. Au fur et à mesure que mon bonheur se débite de plus en plus, ma déprime se crédite.
On sait où est l'argent. On sait où est l'argent. En tous les cas, Antoine Payon a une idée. À en croire le titre du bouquin qu'il sort au Seuil. C'est 600 milliards qui manquent à la France, avec cette mention « Enquête au cœur de l'évasion fiscale ». On va l'épauler avec un autre journaliste qui s'appelle Xavier Harel, qui lui aussi s'est penché sur ces questions de paradis fiscaux et qui est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle « La grande évasion », qui est sorti il y a déjà un certain temps, qui ressort en livre de poche. Alors, Xavier Harel, comment ça se passe à l'étranger? Parce qu'on est là en France, mais comment fait-on aux États-Unis ou dans d'autres pays européens par rapport à ce phénomène des paradis fiscaux et de l'évasion fiscale?
Aujourd'hui, ce qui est mis à jour avec le scandale UBS a été mis à jour concernant des contribuables américains qui avaient des comptes non déclarés en Suisse, il y a 2-3 ans, sur la base de témoignages d'un ancien salarié d'UBS qui a choisi de collaborer avec la justice américaine et qui a démonté l'ensemble du système. Et c'est le même principe. On organise des événements extrêmement mondains et chics et puis on vient démarcher en toute illégalité, puisque c'est interdit, des clients pour leur proposer d'ouvrir des comptes offshore.
Alors, et la lutte contre l'évasion
fiscale. Alors, la lutte contre les paradis fiscaux.
Alors,
il y a plusieurs aspects. Si on prend le cas des particuliers, il y a ce qui a été fait au niveau du G20. Donc, c'est ces fameuses listes noires, puis grises, puis blanches, puis disparues. Enfin, bon, le principe étant de, si vous êtes un paradis fiscal et que vous signez 12 conventions d'échange d'informations, c'est-à-dire l'administration fiscale d'un pays peut vous demander des informations sur des comptes ouverts chez vous. eh bien, vous ne figurez plus dans cette liste et donc vous n'êtes plus considéré comme un paradis fiscal. Le résultat, c'est qu'un pays comme le Liechtenstein, par exemple, qui est un paradis fiscal parmi les plus nuisibles de l'Europe, eh bien, a signé sur les 12 conventions, 9 conventions avec d'autres paradis fiscaux, notamment avec Monaco. Donc ça peut être assez cocasse d'imaginer l'administration fiscale de Liechtenstein, des informations à l'administration de Monaco sur un éventuel client qui aurait caché des comptes à Monaco. Donc cette liste est une blague, ça n'a produit quasiment aucun effet. Ils ont fait un test grandeur nature sur la base de ces conventions d'échange d'informations qui ont été signées. Ils ont envoyé 230 demandes d'informations à la Suisse, à Jersey, à tout un tas de paradis fiscaux. Le résultat, eh bien, c'est que les paradis fiscaux ne répondaient pas, ou alors renvoyaient de l'information dont on disposait déjà, c'est-à-dire l'information qui était contenue dans la question. Donc, ces conventions d'échange d'informations ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est dans un système très dilatoire, on gagne du temps, on ne donne pas les informations, et puis on attend que l'orage passe. Ce qui, en revanche, fonctionne, c'est ce que est en train de faire Barack Obama aux États-Unis. Barack Obama est sensible à la question de l'évasion fiscale et au problème de l'industrie offshore. Depuis pas mal de temps, c'était un sujet qui lui tenait déjà à cœur lorsqu'il était sénateur et qu'il a mis en œuvre une fois président. Aujourd'hui, il y a un bras de fer extrêmement musclé, extrêmement violent entre la Suisse et les États-Unis. Ce qu'imposent les États-Unis, eh bien, c'est que désormais les banques suisses auront pour obligation systématique de déclarer un client ouvrant des comptes en Suisse, un client américain ouvrant des comptes en Suisse. Si elles s'y refusent, eh bien, elles ne peuvent pas exercer aux États-Unis. Ce qui est compliqué pour une banque de se passer de sa présence dans la principale place financière du monde.
Barack Obama, entouré de son secrétaire au Trésor et du chef du fisc américain, l'image est claire, les États-Unis sont en guerre contre l'évasion fiscale.
TSR, 4 mai 2009.
Si les institutions financières ne collaborent pas avec nous, nous présumerons qu'elles cachent de l'argent dans des paradis fiscaux et nous réagirons en conséquence. Et pour être sûr que le fisc ait les outils nécessaires pour faire respecter nos lois, nous allons embaucher 800 nouveaux agents pour détecter et poursuivre les Américains qui fraudent le fisc à l'étranger.
La France pourrait avoir la même position. La France est un grand marché. La France est une place financière importante.
Par exemple, si...
La France pourrait avoir un discours beaucoup plus musclé avec la Suisse. Oui. L'Allemagne aussi.
Je voulais juste dire une chose sur le débat précédent à propos de la lutte contre les paradis fiscaux. Mmh. Il y a bien sûr l'OCDE, les listes grises, les listes noires et tout ce que vous voulez. Mais il y a tout simplement la justice. Et en France, j'ai sous les yeux... la note de synthèse qui a été envoyée par plusieurs cadres supérieurs de la banque UBS à l'autorité de contrôle prudentiel de la Banque de France, c'était en décembre 2010, et donc pas hier, dans lequel, sur une dizaine de pages, vous avez la description extrêmement détaillée de ce système d'évasion fiscale, avec tous les noms des dirigeants et tous les noms des bénéficiaires, en tout cas un très grand nombre. C'est cette note qui, in fine, parce que insistance des cadres en question auprès de l'autorité contrôle prudentiel, a généré une enquête préliminaire ouverte par le parquet seulement en mars 2011. Il a fallu quand même un certain temps. J'ai sous les yeux les comptes, les mouvements des comptes de Liliane Bettencourt, qui ont été transmis de la même façon aux mêmes autorités. Les comptes Climen 512-82-92, la fondation BS 510-96-39. Tout le détail de ces comptes et des mouvements de ces comptes, qui sont des mouvements d'évasion fiscale, de recel d'évasion fiscale et de blanchiment, ont été transmis aux autorités de contrôle et aux autorités judiciaires à la même époque. Eh bien, ça n'a rien produit au niveau judiciaire. C'est là qu'il y a le vrai défaut de contrôle. Il n'est pas tant dans les discours internationaux, les listes de l'OCDE. Il est dans la possibilité du travail, tout simplement, de la police et de la justice. Il a été interdit,
vos sources vous l'ont dit, c'est-à-dire que les gens de la brigade financière, de Tracfin, etc., vous ont précisé, vous ont raconté tout ça.
Mais bien sûr, eux-mêmes. Et ensuite, quand j'ai recoupé les sources internes à la banque, et non seulement ils me l'ont dit, mais ils m'ont donné les documents, je les ai sous les yeux. Un magistrat, encore tout récemment, du parquet de Paris, m'a expliqué comment fonctionnait la chaîne de commandement. On ne peut pas appeler ça autrement.
Oui.
Eh bien, des magistrats du parquet de la section financière mènent leur enquête. Ils en instruisent immédiatement le procureur, qui fait rapport immédiatement au garde des Sceaux et qui, pour les affaires les plus sensibles, fait son rapport à l'Élysée. Et ensuite, il y a la descente. Eh bien, il y a l'ordre ou non de faire instruire par un juge d'instruction l'affaire ou de ne pas la faire instruire. En l'occurrence, l'ordre a été clair, il s'agissait de mettre au coffre-fort, c'est la terminologie des magistrats du parquet de Paris, l'affaire de l'évasion fiscale organisée par UBS.
C'était Carnet de lait et fichier vache, une nouvelle diffusion d'un reportage de Daniel Mermet. Merci aux journalistes Antoine Payon et Xavier Harel pour leur témoignage. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Michel Bézikian, Éric Morin, à la réalisation Dimitri Gronoff et Chloé Sanchez, montage Antoine Chao, assistant Pierre-Yves Bulteau, Solène Cordier attend vos messages sur le répondeur de l'émission au 01 56 40 37 37.
Être utile à Paul, c'est lui simplifier son déménagement.
Moi, c'est Paul. Et avec mon déménagement, je suis un peu stressé. Heureusement, côté énergie, tout est simple. En un coup de fil, GDF Suez Dolce Vita s'est occupé de mon électricité et de mon gaz naturel. Du coup, j'ai un seul fournisseur, une seule facture et surtout, plus une seule raison de me stresser. Enfin, du moins, pas pour l'énergie.
Et du 1er au 30 septembre, les frais de mise en service sont offerts pour l'électricité et le gaz naturel. Offre soumise à condition. Informations au 0800 007 183, appel gratuit depuis un poste fixe.
GDF Suez Dolce Vita, être utile aux hommes.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Chérie, tu sais qu'en tant que fonctionnaire, on a aussi droit aux chèques vacances ?
T'es sûre ?
Mais oui, les chèques vacances, c'est pour les fonctionnaires autant que pour les salariés. C'est valable pour toutes nos vacances et pour nos loisirs. Il suffit de les demander.
Ok, je sors les valises.
Pour vous, fonctionnaires, l'État élargit les conditions d'accès aux chèques vacances. Rendez-vous vite sur ancv.com pour calculer votre pouvoir d'évasion. C'était un message du ministère de la Fonction publique et de l'ANCV.
France Inter et le Théâtre de la Bastille présentent du 10 septembre au 7 octobre Memories from the Missing Room, spectacle de Marc Lenné, inspiré par l'univers du groupe Moriarty et accompagné par le dessinateur Philippe Dupuis, tous en live sur scène. Trois personnages se perdent et se retrouvent, meurent et ressuscitent dans un spectacle hors norme qui mêle théâtre, musique et dessin. Retrouvez Memories from the Missing Room dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter présente Future Vintage d'Arnaud. We're gonna sing for the man. Luxuriant, kaléidoscopique the man with no plan. Et continuellement inventif, le nouvel opus d'Arnaud est un ensemble de rock affûté. En tournée dans toute la France, et les 26, 27 et 28 novembre au Café de la Danse. Retrouvez Arnaud et ses nouvelles chansons dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr.
Dans quelques minutes, Frédéric Lodéon, bon après-midi sur France Inter, il est 16h. Les informations avec Dominique Delaroa, bonjour.
Bonjour. De nouveaux appels à manifester samedi à Paris et dans plusieurs grandes villes de France circulent sur les réseaux sociaux. Appels à manifester pour protester contre le film anti-islam. Samedi, quelques dizaines de personnes ont manifesté illégalement près de l'ambassade des États-Unis et de l'Élysée, un des quartiers les plus sécurisés de Paris. Quelques femmes intégralement voilées y participaient, des hommes affichant leurs convictions islamistes radicales, mais aussi des jeunes habillés de manière classique. La justice enquête pour identifier les organisateurs de cette action. Jean-François Copé réclame une nouvelle fois un référendum sur le droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales. L'entourage de François Hollande a confirmé que cette promesse de campagne serait tenue. Le secrétaire général de l'UMP fait part de son extrême préoccupation devant ce projet, selon lui, qui porte évidemment atteinte à la cohésion nationale. C'est un sujet qui mériterait un référendum, estime également Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée. Valérie Pécresse, Profillon, voit pour sa part dans ce projet la volonté de faire monter les extrêmes et diviser la communauté. L'UMP encore, avec la course à la présidence du parti, ce soir, coup de sifflet final pour les candidats qui doivent déposer leurs 7924 soutiens d'adhérents. Seule femme en course, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui rêvait d'incarner une troisième voie, a reconnu ce matin qu'elle n'était pas qualifiée. Henri Guénaud, ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, n'a pas non plus le nombre requis. Et Bruno Le Maire a lui aussi rendu les armes. La bataille pour la présidence de l'UMP va donc se résumer à un duel entre François Fillon et Jean-François Copé. La justice française interdit la cession et toute nouvelle diffusion des photos de Kate Middleton, seins nus. Photos publiées par le magazine Closer. La justice a par ailleurs ouvert une enquête au pénal pour atteinte à la vie privée du couple princier. Dans un bref communiqué, William et Kate saluent la décision de la justice française. Enfin, le quotidien La Provence dément qu'une de ses photographes ait pris ses clichés de la duchesse Kate au sein nu. Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien patron de Elf, inculpé au Togo de complicité d'escroquerie pour son rôle dans une affaire portant sur 48 millions de dollars à Paris. Le ministère des Affaires étrangères précise que l'ancien patron d'Elf a bénéficié depuis le début d'une protection consulaire pour vérifier qu'il avait bien un avocat et jouissait de tous ses droits. Une saisie d'armes sur une aire de l'autoroute A4 en Moselle. Dans la nuit de dimanche à lundi, les douanes ont contrôlé une voiture de tourisme en stationnement. À l'intérieur, 6 fusils mitrailleurs de modèle Kalachnikov AK-47 ainsi que des munitions. Le conducteur, un ressortissant de Bosnie-Herzégovine, indiquait qu'il se rendrait en Suisse. Il a été remis à la police judiciaire de Metz.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit Arnaud, Dan, et Eric Larenne.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous demain, à partir de 18h, devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Quand j'entends ça...
Mais c'est pas vrai, ils vont continuer encore longtemps?
Comment?
Mais non.
On peut dire des choses pareilles.
C'est pas vrai.
Oui, madame.
Oui.
C'est...
Non.
France Inter. C'est différent maintenant.
La voix est libre.
Et il est 16h04, l'heure de retrouver Frédéric L'Odéon. Bonjour.
Bonjour Dominique.
Carrefour de l'Odéon, avec le Festival d'Île-de-France. 29 concerts en septembre et octobre, dans 26 lieux du patrimoine francilien.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez le mieux possible. Quelquefois ici on passe des auteurs qui ne sont pas absolument célèbres, et j'ai expliqué pourquoi, parce que quand il y a Mozart bien sûr, quand il y a Haydn, il y a aussi autour d'eux tout un groupe de compositeurs, un terreau spirituel qui quelquefois est très important. Et pour se rendre compte mieux du génie de Mozart ou de Haydn, eh bien c'est bien de consulter aussi les musiciens, les partitions des petits maîtres, ce qu'on appelle les petits maîtres. Et Goethe, le grand écrivain et philosophe, a écrit à peu près la même chose. En d'autres termes, il a dit « À distance, on ne reconnaît que les artistes de premier plan et souvent on se contente de leur nom. Mais si on se rapproche de cette constellation et que les personnalités de second et de troisième plan commencent elles aussi à briller, chacun appartenant à cet ensemble, alors le monde et l'art s'en trouvent plus riche. » Voilà, c'est dans cette perspective que je vous propose aujourd'hui de commencer par un concerto de Georg Christoph Anton Wagenseil, né en 1715 à Vienne. Vienne est forte, elle a été protégée des dangers extérieurs par les victoires de l'armée du prince Eugène, et puis la peste s'est arrêtée en l'an 1713, donc elle devient un point très important, un point chaud même de la politique européenne, mais aussi un centre des arts. Et bien voici ce fils de négociant à travers son concerto pour hautbois, basson, vent, cordes et basses continues. Thank you. Le presto d'un concerto en mi bémol majeur pour hautbois, basson, vent, cordes et basses continues de Georg Christoph Wagenseil, compositeur né en 1715, donc interprétation due à l'ensemble Écho du Danube, c'est très, très joli comme nom, dirigé par Alexander Weimann. Alors mi bémol majeur, c'est difficile à expliquer quand on n'a pas un piano devant soi, mais simplement je peux dire c'est une tonalité, une couleur sonore donc qui est très favorable aux instruments à vent en général. Et voici un autre personnage peu connu, on va commencer comme ça, Friedrich Kuhlau, qui est né près de Hanovre en 1786 et qui était un pianiste et compositeur danois d'origine allemande. Il s'est installé au Danemark en 1810 à la suite de l'occupation de l'Allemagne par Napoléon. Et puis il a été concertiste de cours, professeur de piano et vraiment grande félicitation à lui parce qu'il s'était forcé de diffuser les sonates de Beethoven, compositeur qu'il a rencontré personnellement lors de ses voyages à Vienne. Alors ça c'est sympathique quand un artiste essaye de faire connaître un autre artiste, d'autant plus que l'autre est plus grand que lui, Kuhlau. Donc félicitations et puis un joli coup d'oreille si vous voulez bien, un clin d'œil vers cette partition sonatine en la mineur avec un allegro burlesco qui ressemble un tout petit peu, pourquoi pas, une turquerie de Mozart et la marche turque, il y a quelque chose quand même, inspiré de l'Orient.